Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les samedis matin pour parler de...
Philippe, vous m'avez pris au dépourvu.
Non, c'est vrai. En fait, je voulais voir si vous aviez du métier, si vous pouviez rebondir. Et là, c'est le grand moment de solitude radiophonique.
Non, mais je vais rebondir, Philippe. Je vais rebondir à contre-temps. Non, effectivement, aujourd'hui, on va parler de toutes vos recettes préférées. Hein, les recettes préférées des Français que vous commandez au restaurant.
Au restaurant. Hein.
Parce que, évidemment, c'est pas toujours facile à faire à la maison, parce qu'il faut un certain matériel. Un certain savoir-faire, ou parce que ça vous semble trop compliqué, trop laborieux à faire. Et on va vous expliquer aujourd'hui avec le chef Julien Durand, et puis avec Julien Durand Junior, hein, la chefette Safia, hein, qui l'accompagne encore aujourd'hui.
Bonjour à tous. Ouais,
on va vous dire comment faire tout ça facilement à la maison.
Ouais, transposer à la maison ces recettes.
Hein, on va pas vous donner des recettes dans le détail. Hein, ça, vous avez toujours des recettes effectivement pour ces plats-là, mais on va vous donner les petits trucs, enfin surtout Julien d'ailleurs, pour les faire facilement à la maison, les petits trucs et astuces. Pour les réussir facilement à la maison, ou les faire plus vite, ou les faire sans avoir le même matériel qu'un chef dans un restaurant. On va vous dire tout ça aujourd'hui, Philippe.
Bien, Julien Durand, le roi du foie gras à la halle. Alors, on a un métier difficile, Manu. Hein.
Oui, on a un métier difficile.
Pas toujours facile. Ouais.
On a goûté, Julien, il y a 15 jours, nous a ramené du foie gras, hein, avec un insert à la figue à l'intérieur, qu'on a goûté avec Philippe. Donc, il nous a donné, je crois, 250 grammes chacun, on a passé notre semaine à manger du foie gras. C'était une semaine difficile. Et d'ailleurs, foie gras que vous pouvez commander, hein,
en direct
auprès de Julien. Vous allez sur son Instagram, durandjulien94, tout attaché, et vous pouvez commander ses foie gras. Alors, il y a quoi comme insert? Il y a oignons confits, dattes et figues.
Et il y a quelques particularités qui me demandent avec un peu de truffe. Donc, c'est la brisure de truffe d'été. J'arrive à en faire aussi au pain d'épices. J'arrive à en faire un petit peu à la vanille, avec un extrait de vanille tip top. Enfin, on fait ce que vous voulez, vous. Par rapport à vos goûts, on s'adapte à vos disponibilités, à vos envies plutôt.
Comme dirait Philippe, vous pouvez pimper le foie gras pour avoir un insert.
Non, moi je ne le dis pas, Manu. vous le dites et je vous entends le dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Avec des prix très abordables.
Oui.
Et on essaye de se placer sur le marché parce que je veux être vraiment le référent là-dessus.
Monsieur foie gras halal.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le foie gras d'un chef et c'est vrai que dans le halal aujourd'hui, vous êtes le meilleur, Julien.
J'espère,
meilleur rapport qualité-prix. Meilleure consistance en bouche,
mi-cuit comme il se doit,
avec une cuisson sous contrôle. Donc j'utilise un thermoplongeur, donc c'est
cuisse sous vide au thermoplongeur,
suite à mon expérience et tout. Et c'est vrai que c'est une cuisson sous vide sous thermoplongeur à 63 degrés et c'est juste magnifique. Après, je sais pas si je serai le meilleur, j'ai envie de faire goûter au plus grand nombre ce foie gras là, mais j'ai vraiment cette envie là en tout cas.
Ouais, l'avantage de la cuisson sous vide à basse température, c'est qu'on a un foie gras qui reste très moelleux. Hein, on le sort du frigidaire, effectivement, il est un petit peu dur, mais quand on l'a en bouche, il est fondant, il est.
On le cuit donc sous vide. Sous vide, j'ai 21 jours de DLC là-dessus, donc est consommable après 21 jours. Une fois ouverture, il faut compter une grande semaine et on peut le congeler. Donc et après, on peut le garder pendant un an au congélateur. Parce que le fait de le cuire sous vide à cette température-là pendant une heure le pasteurise en fait. Et la pasteurisation enlève tout un type de microbes. À savoir que nous, musulmans, on consomme pas d'alcool, donc il n'y a aucun additif, aucun sel nitrite, aucune cochonnerie, on va dire. Et voilà.
On peut l'acheter maintenant, hein. C'est vrai.
J'ai commencé un tout petit peu maintenant. La production est à son début. Bon, les prix sont encore assez bas. J'espère pas trop augmenter, mais c'est pas le but. Mais on peut commencer sur les réseaux, sur cette page Instagram. Rejoignez-moi en privé et on communiquera tout ce qu'il faudra.
Voilà, Durand Julien 94, et vous pouvez commander maintenant, parce que si vous attendez les fêtes, peut-être que chef Julien, il aura plus le temps et il y aura trop de commandes, hein, comme l'année dernière.
J'espère, si Dieu veut commander.
Ouais, non, parce que c'est une production artisanale, il faut aussi le...
Ouais, c'est une production artisanale, je dégaine de moi-même, je fais vraiment tout. Enfin, je fais mon assaisonnement, je fais mon mélange d'épices, et en fonction de vos envies, on l'additionne avec cet insert au choix, et c'est vrai que ça demande un petit peu de travail. Grosso modo, il faut compter 72 heures avant de récupérer le ballotin.
Ou sans insert pour les puristes, vous pouvez mettre la petite fondue d'oignon à côté.
La petite fondue est offerte, je devrais pas le dire, mais j'offre en parallèle une petite fondue d'oignon caramélisée.
Bah si, il faut le dire.
Faut le dire alors. C'était une petite surprise.
Oui, oui, je vois votre attaché de presse qui opine, hein, Safia qui fait oui, faut le dire.
Ouais, cadeau pour vous. Alors, on parle souvent de cuisine et de plats dont les énoncés sont parfois un peu compliqués à comprendre, Manu. Et pourtant, les Français, quand ils vont manger au restaurant, mangent des plats qui sont assez simples. Hein.
Alors oui, absolument. C'est vrai que quand on regarde, on a un petit classement. Hein.
Le
top 10 salé, ouais. Sucré, ouais, absolument. Alors si on parle du top 10 salé, bon après on va rentrer dans le détail, mais on va survoler là un petit peu. Le top 10 salé. En premier, il y a le magret de canard. Hein. 48% des gens ont dit oui au restaurant. Ce que je commande le plus, c'est le magret de canard. C'est aussi la recette. Les recettes de magret de canard sont les plus recherchées sur les sites de recettes. Donc, on va vous expliquer comment bien cuire le magret de canard, parce que effectivement, si les gens le commandent au restaurant, c'est qu'ils ont peut-être déjà essayé à la maison et ils n'ont pas eu le même résultat qu'au restaurant. Donc, on va vous dire comment le cuisiner comme au restaurant. Idem pour la côte de bœuf. Alors, le magret de canard comme la côte de bœuf, tout est question de cuisson. Hein. C'est vraiment ça qui est important. En troisième, la raclette. Hein,
c'est pour ça que je vous ai demandé cette semaine où on mangeait la meilleure fondue, la meilleure raclette dans les environs.
Exactement.
Et là, ça commence, c'est le début de la saison là. Hein.
Alors après, deux emblèmes hein, de la. Bon, ça se joue à hein, 29% et 28%. Hein, ça a été cité par 29 et 28%, respectivement. En quatrième position, le bœuf bourguignon et en cinquième, la blanquette de veau. Hein, deux emblèmes de la cuisine française traditionnelle. En sixième, les moules frites, Philippe. Hein. Ça fait longtemps qu'on doit aller manger des moules frites, ouais. D'ailleurs, un dimanche soir.
Mais c'est simple et ouais. C'est parfait.
Ouais. Frites. Simple, efficace. Ouais. Ensuite, le gigot d'agneau. Alors là aussi, j'imagine, question de cuisson. Hein. Voilà, il y a Safia, ouais. Qui fait oui. Elle se lèche les babines.
Ça, c'est le plat de partage.
Bon, on va le voir que t'aimes ça. T'es filmé, hein, Safia, je te rappelle. Ensuite, le couscous. Voilà, idem. On aime manger le couscous, mais on ne sait pas forcément le faire.
Et on aime aller au resto manger du couscous.
Ouais, ouais, ouais. Un bon couscous. Puis comme ça, il y a moins de vaisselle à faire. Et puis, le steak frites. Alors ça, je comprends pas pourquoi on va manger. C'est peut-être plus pour les frites que pour le steak, parce que tout le monde sait cuire un steak.
J'étais
quand même
persuadé que c'était encore le plat numéro un.
Ça a baissé. Et puis en dixième, hein, un plat que Philippe aime bien, les tomates farcies. Alors on va vous expliquer comment. Tout à l'heure, on va vous expliquer peut-être comment faire des tomates farcies avec des restes de blanquettes de veau, par exemple, ou de bœuf bourguignon.
Ouais.
Ou...
Mais des bonnes tomates farcies, c'est compliqué à trouver. Hein.
Ouais. Oui, souvent c'est trop sec, c'est pas très bon, etc. Voilà pour le sucré.
Pour le salé, pour le sucré, Manu, donc.
Alors pour le sucré, number one, ça m'étonne pas, c'est le fondant au chocolat. Alors le fondant au chocolat ou moelleux au chocolat. Alors il y a toujours des soucis d'appellation. Hein. Là, on parle vraiment du petit gâteau au chocolat avec le cœur coulant. Hein. Donc ce moelleux au chocolat avec le cœur qui coule, ça c'est number one. Ensuite, on a les crêpes. Alors ça, c'est voilà, on mange des crêpes au restaurant. Alors peut-être que les gens disent ça parce qu'ils vont dans les crêperies. Et
ah oui, d'accord.
Où effectivement, on mange que des crêpes. Donc les gens aiment bien, a priori, aller dans les crêperies. Ensuite, il y a la mousse au chocolat, un classique. L'île flottante.
Ça, c'est pareil. Hein. Trouver, ouais, une bonne mousse au chocolat, c'est quand même...
C'est pas évident.
C'est compliqué au resto. Hein.
Elles sont souvent à volonté, mais elles sont souvent dégueu quand même.
Ouais,
hein.
En figure, ouais.
Voilà. Ensuite, l'île flottante ou les œufs à la neige, hein, comme on les appelle officiellement dans les milieux des cuisiniers. En cinquième, la tarte aux pommes. En sixième, on a le tiramisu. Alors moi, je pensais que ça allait être premier. En septième, il y a la crème brûlée. Hein, moi, je pensais que c'était number one.
Ah, la crème brûlée?
Ouais.
On s'est passé de mode, la crème brûlée, non?
Bah, pourtant, ouais. c'est toujours dans le top 10, Philippe. Ensuite viennent les profiteroles, hein, dans le classement. Puis le millefeuille. Alors, ça, c'est vrai que le millefeuille, hein, c'est pas évident à faire à la maison. Si on veut faire sa pâte feuilletée maison.
Voilà, un bon, voilà, millefeuille, c'est compliqué à trouver aussi.
Le problème, c'est la pâte feuilletée et le reste, c'est pas compliqué. Et puis, la tarte aux fraises. Alors, ça aussi, c'est pas toujours facile de trouver une bonne tarte aux fraises, surtout maison déjà. Voilà. Donc, voilà un petit peu le top. Alors, nous, on a sélectionné des plats qui font partie de ce classement ou pas d'ailleurs. Hein, on a mis d'autres plats à cuisiner à la maison et puis on va vous détailler tout ça.
J'ai vu, Manu, que dans le classement, il n'y avait pas le fameux avocat crevette.
Non, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui commandent ça au restaurant, l'avocat crevette. Alors peut-être qu'ils ne savent pas faire une bonne sauce cocktail, ou peut-être simplement que ils préfèrent le manger au restaurant parce que peut-être qu'ils trouvent que les crevettes sont meilleures que chez eux. Ou voilà. Bon. Et puis c'est vrai que les bonnes crevettes, quand on va acheter ça chez son poissonnier, ça coûte un bras un peu.
C'est
quand
ça,
même.
En fait, tout est question, ouais, de matières premières, je pense. Quoi. Pour trouver des bons produits, une bonne mousse au chocolat, il faut du bon chocolat. Pour trouver toutes ces bonnes choses, il faut aussi des produits qui suivent, à mon avis. Et là, c'est primordial. Hein.
Absolument, c'est un petit peu. Et puis il y a une tendance aussi. Hein, c'est tout ce qui est poisson cru. Hein, les tartares de poisson, les carpaccio de poisson, les ceviches. Ça, c'est très très à la mode. Alors comme c'est sous des appellations différentes dans le classement, ça rentre pas dans le top 10. Mais si on cumule le tartare, hein, le ceviche et le carpaccio de poisson. Ça fait quand même un gros pourcentage hein, qui aime. Alors, on va vous expliquer comment le mariner, comment le cuisiner à la maison.
Alors, vous parlez de tartare, Manu, mais s'il y a bien un resto, un plat qu'on mange qu'au restaurant, c'est bien le tartare et le tartare de viande. Hein.
Le steak tartare,
le
absolument.
Steak tartare, et là, on le trouve plus dans le classement. Est-ce que ça veut dire que finalement, le tartare est sorti des habitudes des Français?
Bah, je pense que le en fait c'est le poisson qui a pris le dessus parce que à mesure que le tartare de viande hein, le steak tartare donc baissait dans le classement, tout ce qui est poisson cru et notamment les tartares de poisson montait lui de son côté. Donc bon ça montre effectivement une évolution vers le flexitarisme où on mange moins de viande mais on mange mieux, on mange plus de poissons, des bons poissons et c'est effectivement une heureuse nouvelle.
Le tartare, dans la communauté, on n'en mange pas du tout, hein, chef Juju.
Non. Vous affirmez que non, on ne mange pas de viande crue, c'est assez compliqué. Après, c'est sûr que c'est plus une viande d'été que d'automne et d'approche d'hiver, mais non, on n'en mange pas. C'est difficile de manger une viande crue comme ça.
Oui, puis avec cette habitude de manger la viande surcuite, là, si on passe au tartare, c'est un peu le grand écart. Hein.
C'est ça. Pourtant, Dieu sait que c'est bon, mais bien préparé, avec des bons ingrédients, un peu de capre, un peu de persil, un peu d'oignon, une bonne mayonnaise qui va avec une petite pointe de ketchup relevé au tabasco, ça peut être très
sympa. Ouais. Ouais. Et puis pour passer cette barrière psychologique un peu du tout cru, on peut faire, c'est à la mode aussi, le tartare aller-retour. Hein,
c'est ça.
Donc on le cuit juste à l'extérieur, un peu comme un tataki. Hein,
exactement.
Un tataki, c'est une viande presque qui reste crue à l'intérieur. Du coup, on n'est pas bleu, là, on est carrément en dessous de bleu. Hein, on fait juste colorer l'extérieur et on laisse l'intérieur cru. Et psychologiquement, ça peut aider les gens qui a priori n'aimaient pas la viande crue à y goûter, en général, ça marche pas mal.
Moi, je fais mon tartare, je l'assaisonne donc avec ma garniture à convenance, là, donc les capres, les oignons, le persil et tout ce que j'ai envie dedans. On les fait flasher donc sur une poêle antiadhésif assez rapide, en aller-retour, pour juste colorer le dessus et le dessous. Et je casse un œuf par-dessus. Et ce que nous, on appelait à l'époque le steak à cheval. Mmh. Et ça fait un œuf au plat sur cette viande mi-cuite, un peu bleue, parce que c'est comme ça qu'il faudrait la manger finalement. Et mes enfants peuvent en témoigner et se régalent avec ça. Mmh.
Bah, à noter que le tartare, c'est pas forcément de la viande hachée, hein. C'est de la viande qui peut être découpée au couteau.
À la base, c'était prévu pour ça.
Hein,
ouais, découpé au couteau.
Oui, c'est pas, oui, effectivement. Hein,
c'est pas de la viande hachée crue, non.
C'est pour ça que les restaurateurs précisent surtout souvent tartare coupé au couteau. Déjà, ça veut dire souvent que c'est plutôt fait maison, et puis surtout, on a un peu de mâche, ça laisse un peu de mâche. Hein, parce que souvent, quand c'est vraiment complètement haché, hein, quand on le fait à la maison, si on hache sa viande au mixeur, ça fait une espèce de pâte de viande qui est un peu écœurante. Hein, non.
Je suis pas si vieux, mais quand j'ai commencé dans une brasserie parisienne, très grande brasserie, on assaisonnait le tartare devant le client, quoi, le maître d'hôtel.
Il préparait
le tartare devant notre client, et c'est vrai que ça a apporté cette touche de fraîcheur qui est absolument nécessaire pour pouvoir manger cette viande.
Ouais, à Lyon aussi, il y a un restaurant dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait son tartare, qui le hachait au couteau à la table. C'est ce qui a fait sa réputation d'ailleurs, hein, comme un bouchon lyonnais où ils hachaient la viande avec deux couteaux, tac, 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 comme ça. C'était assez joli à voir.
Bien. Tiens, Maître Boily nous envoie la musique tout de suite.
Direct.
Ah, non, mais Maître Boily, il a pris la confiance.
Hein, c'est l'Ayatollah Boily.
Je rappelle que tout à l'heure, tirage au sort, Manu, pour repartir avec un cadeau aujourd'hui.
Absolument, vous allez gagner un livre. Alors, un livre d'une... Non ?
Non, aujourd'hui on tire au sort.
Ah oui, pardon, mais oui, c'est le tirage au sort, pardon.
Voilà,
pardon.
Oui,
aujourd'hui on va gagner un dîner pour deux personnes au Brézanville, hein, le restaurant de Philippe Baranès, que nous recevions la semaine dernière.
C'est une tuerie, hein, faut le dire.
Émission, ouais, c'est top, ouais, non, c'est top.
On s'est régalé,
Sachant que c'est le chef qui m'a presque le plus impressionné, lui.
Alors, c'est vrai?
Ah ouais, il est très impressionnant.
Ouais, pourtant il est discret, hein. C'est un chef qui est connu dans le métier, il est connu, mais c'est vrai au niveau du grand public, parce qu'il est pas, c'est quelqu'un de réservé. Lui, il est dans, il a 4 restaurants, il bosse dans ses restaurants, il bosse pas dans les cocktails, dans les dîners en ville et dans les cocktails en ville, hein, il court pas les télés, etc., et ni les radios, et c'est pour ça qu'on le remercie d'ailleurs d'être venu chez nous, à nouveau. Et donc, Philippe Baranès, qui offrait un dîner pour 2 personnes dans son restaurant Braise-en-Ville, où tout est cuit à la braise, hein, dans des fours, j'espère, de l'entrée au dessert. Tout est cuit à la braise et ça donne un petit goût incomparable.
C'est peut-être vous qui allez dîner chez Philippe Baranès.
Hein, oui, oui. Et vous pouvez encore jouer, hein, jusqu'au tirage au sort sur donc ma page Instagram mariani.manuel, mariani.manuel.
Dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Avec le chef Julien Durand qui est avec nous aujourd'hui, le roi du foie gras. Alors les auditeurs veulent parler de foie gras puisqu'on a plein de messages qui arrivent hors antenne sur le foie gras et savoir comment il arrive jusqu'à eux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs de province qui nous écoutent aujourd'hui et même à l'étranger qui nous écoutent. Julien Durand, votre foie gras halal, comment est-ce qu'on peut se le procurer?
Idéalement, il faut se rencontrer dans les environs où j'habite.
Voilà, idéalement, bon.
Et là, je suis en train de discuter avec différents fournisseurs qui pourraient m'aider à additionner leurs produits aux miens et qu'on puisse faire un envoi général via ChronoFresh, pour pas le nommer, quoi.
Ouais. Parce que ça, c'est important aussi, hein, de pouvoir. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ailleurs qu'à côté de chez vous.
Énormément. Ça va se régler rapidement. Je vais faire en sorte de vous faire goûter le meilleur foie gras de toute la France via Toulouse, via Bordeaux, via Marseille et ses environs.
Voilà, des réflexions sont en cours pour pouvoir vous livrer les meilleurs foie gras halal du chef Julien jusqu'à chez vous, où que vous habitiez.
Bien, on fait le top des plats de restaurant aujourd'hui que vous pouvez faire à la maison. Manu, on va s'intéresser au ceviche et au carpaccio. Quelle est la différence entre les deux?
Et au tartare, le poisson cru en général, on va dire. Bah, le carpaccio, hein, bon, comme son nom l'indique, hein, c'est des fines tranches, alors plus épaisses, hein, quand même, que les tranches de carpaccio de bœuf, hein, comme on a l'habitude de le faire. Donc, ce sont des tranches qui font à peu près 2 mm. On peut le faire avec des Saint-Jacques aussi, hein. On peut faire des carpaccio de crevettes, de gambas, de langoustines, voilà. Après, on peut le décliner, hein, avec tous les produits de la mer. Et la particularité, c'est que effectivement, ces cevichés, ces tartares de poisson, ces carpaccio, on va les cuire un tout petit peu avec une marinade, hein, avec souvent du citron, hein, Julien.
Oui, citron vert. Ouais. Et pour revenir au bœuf, moi, j'adore le faire avec un rôti de bœuf. Parce que je suis un...
Enfin, le roast beef, quoi.
Le roast beef, ouais. Et je le coupe, bon, pas des grandes tranches, mais je le coupe moi-même au couteau, parce que je veux cette mâche, en fait.
Ouais, avoir un petit peu d'épaisseur.
Que je retrouve, ouais, dans le tartare. Et c'est vrai que quand on le fait nous-mêmes, c'est meilleur. Dans certains restaurants, sur Paris en tout cas, parce que je suis de Paris, quand on voit un frisbee de viande sur une assiette complètement plat, c'est du surgelé, c'est pas bon du tout, c'est pas ça le vrai carpaccio.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que un steak haché surgelé que vous achetez dans le commerce fait 100 grammes. Quand vous commandez une assiette de carpaccio au restaurant, dans l'assiette, il y a 30 grammes de viande.
Ah non, c'est honteux.
Ouais, donc
pareil,
c'est du papier à cigarette.
Le veau vitello, quand on fait un rôti de veau, que vous coupez des fines tranches au couteau et que vous faites votre veau vitello avec votre mayonnaise un peu anchoidée, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment minimiser, mais optimiser plutôt, pardon, cette épaisseur, en fait. C'est très intéressant d'avoir cette mâche en bouche.
Voilà, et si vous êtes quand même fan des carpaccio fins, et que vous n'arrivez pas à le faire à la maison, c'est normal, parce qu'au restaurant, pour réussir à faire des tranches très fines comme ça, ils congèlent la viande d'abord.
C'est ça. Comme pour le thon.
Voilà, absolument.
On congèle le thon et on tranche, nous, dans la restauration, avec la machine... à charcuterie, la machine, comme on l'appelle à l'ancienne, à jambon.
Voilà, alors, quand c'est vrai que c'est quand on a des beaux poissons frais, c'est dommage de les congeler, mais si vous avez un petit peu peur au niveau de la sécurité alimentaire, sachez que congeler un poisson avant de le manger cru, ça vous permet de tuer effectivement les bactéries et autres qui pourraient rester sur le poisson. Mais si vous allez chez un bon poissonnier, en général, c'est la pêche du jour presque, hein, vous pouvez manger ça.
Allez chez votre artisan poissonnier du coin de votre ville, il vous conseillera le mieux. Mais c'est vrai que la dorade, ça prête bien, le saumon aussi. Voilà, moi j'additionne juste le filet d'huile d'olive, une petite botte de coriandre hachée finement, une petite pincée de zeste de citron vert parce que ça relaisse un peu le twist et un filet de sel de fleur de sel et ça suffit amplement quoi.
Ouais, vous pouvez vous amuser avec les zestes, hein, Julien. Un petit peu de combava, un peu de citron vert.
Voilà.
Avec le saumon aussi. Si vous faites un carpaccio de saumon, vous zestez une orange dessus et vous mettez, vous mélangez le jus de citron pour moitié avec du jus d'orange et saumon orange, ça marche super bien.
C'est classique ça. Saumon échalote, ciboulette.
Ouais. Ou un saumon beurre d'orange par exemple.
Oh là là.
Ça c'est très bon. Mais on vous parlera tout à l'heure du saumon pour vous expliquer comment le cuire rosé à cœur comme au restaurant.
Un plat de restaurant alors qui se perdait mais qui revient à la mode, c'est la soupe à l'oignon. Alors c'est quoi, quel est le secret de la soupe à l'oignon, Julien Durand?
Le soupe à l'oignon, ça m'évoque ma grand-mère quoi. C'est vraiment le truc où on bloquait les oignons au fur et à mesure des préparations quasiment de la semaine dans un petit seau. Et puis en 3-4 jours après, on se lançait dans une vraie soupe à l'oignon gratinée quoi.
Ouais, les talons d'oignon qu'on laisse dans un coin pour pas se couper les doigts quand on est mince. Ouais.
C'est ça. Nous, on les laisse en restauration pour faire des fonds.
Des fonds de veau, ouais, absolument.
Donc, tout ce qui est fonds de légumes, talons de légumes, carottes, céleri et autres, on les mettait dans un coin et quand on en avait suffisamment, on lançait notre fond, notre bouillon de légumes. Mais ouais, ça m'évoque vraiment les souvenirs d'antan et pour ça, il faut pas grand chose, hein, 3 pommes de terre, un bouillon de cube parce qu'on en a tous à la maison, un peu d'eau, du poivre, du sel, 4 oignons. Et puis du gruyère râpé à la fin qui va venir gratiner le tout au four. C'est un délice, c'est un régal.
Avec des petits croutons.
Avec des petits croutons.
Avec le pain, non? Moi j'aime bien avec le pain.
Avec le vieux pain,
ouais. Mais ouais, avec le vieux pain rassis au-dessus.
Ouais, c'est la différence entre la soupe à l'oignon et la gratinée à l'oignon. Là, vous avez en fait une gratinée à l'oignon, c'est une soupe à l'oignon avec par-dessus le pain, alors pain de campagne rassis, hein. Vous avez un reste de pain de campagne. Vous le faites pré-griller un petit peu avant de le mettre au-dessus. Vous mettez votre soupe, vous mettez votre pain de campagne que vous avez commencé à faire griller au four, le fromage par-dessus, boum, ça repart dans le four sous le grill, hein, juste sous le grill, c'est un bonheur. Quoi.
Toujours dans cette même brasserie où j'ai démarré, on les mettait dans les bols à tête de lion, là, les anciens bols.
Voilà,
voilà, il y a tout
individuel,
ça aussi.
Individuel, ouais.
Les bols qui
avec le fromage qui coulait sur les côtés. Là,
c'est ça gratinait, c'était la belle époque.
Hein. Mais ça coûte rien à faire, hein.
De l'oignon, de l'eau, un bouillon de cube.
Oui, c'est les restes d'oignons de la semaine, hein, en plus, comme
les restes
Julien.
De baguettes, comme a dit Manu, pour mettre un côté rassis un peu le sol dessus et un peu de fromage râpé pour gratiner le tout. Non, ça coûte pas grand chose, non.
Voilà. Et moi, ce que je peux vous donner un petit conseil aussi, c'est que avant de préparer votre soupe à l'oignon, vous prenez une poêle sans matière grasse et vous prenez un demi-oignon. Et ce demi-oignon, vous le faites brûler. C'est-à-dire que vous mettez le demi-oignon côté ouvert sur la poêle, vous le faites brûler. Et mettez pas le feu non plus, hein. Mais vous le faites brûler comme une tartine. Vous savez, dans votre toaster, vous oubliez une tartine, elle va avoir ce petit goût de brûler. Et cet oignon brûlé, vous le mettez dans votre préparation avec le bouillon et vos oignons émincés. Et d'abord, ça va donner une très belle couleur à votre soupe à l'oignon. Et puis, ça va donner un petit goût fumé qui donne une petite particularité très très agréable. Alors bien sûr après vous l'enlevez, hein, sinon ça va vraiment prendre le goût de brûlé. Mais si vous le laissez juste le temps de la cuisson de votre bouillon,
la coloration,
ça c'est un truc de chef. Sur le coin du piano qu'on brûlait nos oignons, qu'on mettait dans nos fonds de veau, et c'est une vraie valeur ajoutée et ça donne ce côté un peu ambré à cette sauce et ce goût.
Là, ou si on veut faire un jus de viande un peu corsé.
C'est un temps de toute façon à manger une soupe à l'oignon là.
Ah mais complètement, on est en plein dedans.
Googlez et faites de la soupe à l'oignon. Un plat que j'adore, c'est l'œuf cocotte au saumon.
Ouais, alors, bon, l'œuf cocotte de base, on sait que vous aimez les œufs bénédicts au saumon, les œufs cocottes au saumon, c'est votre truc,
ça.
Philippe.
Ah, franchement, j'adore.
C'est vrai que les gens souvent n'osent pas forcément à faire les œufs cocottes à la maison parce qu'ils ont peur qu'ils soient trop cuits, etc. Alors, Julien, l'œuf cocotte, le secret.
L'œuf cocotte vide frigo et vide placard, nous, on utilise. La coquille, on la remplace par un contenant comestible en fait. Donc une petite tranche de lard, on peut le remplacer par du fromage râpé, on peut le remplacer donc par une pomme de terre un peu écrasée façon Darfin. Mais j'aime bien utiliser cette petite tranche de jambon fumé, de jambon de dinde, de ce que vous voulez, que vous disposez sur vos moules à muffins. Ok. À l'intérieur, donc ça fait des espèces de socles, des espèces de couvercles, et vous mettez votre œuf dedans. Et vous mettez ça au four 180 degrés à 10-15 minutes. Et vous avez cette coquille qui est remplacée par ce socle de jambon. Et vous mangez le tout. Et en fait, tout est comestible, en fait. J'aime bien jouer là-dessus, pour les enfants, ça plaît toujours.
Hein. Voilà. Et si vous voulez, hein, si vous êtes un étudiant et que vous voulez impressionner vos amis dans votre chambre d'étudiant en leur faisant des œufs cocottes alors que vous n'avez pas de four, etc., vous pouvez faire des œufs cocottes au micro-ondes.
Moi, j'ai toujours cru que justement la cuisson des œufs au micro-ondes, c'était risqué. Hein.
Alors oui, mais là, si vous faites ça, c'est assez inratable, on va dire. Vous prenez vos ramequins. Vous les beurrez un petit peu, hein. Vous prenez un peu de beurre, vous frottez le ramequin, c'est important pour la cuisson au micro-ondes. Ça empêche l'œuf de se figer sur le ramequin.
Et ça l'empêche. Ça n'explose pas les œufs?
Non. Si vous mettez un œuf entier avec la coquille, oui, il risque d'exploser. Mais si vous le faites comme je vous l'explique, ça ne risque rien. Donc, dans ces petits ramequins, hein, dans les petits trucs à crème caramel, vous voyez, hein, les petits, vous mettez un petit peu de crème fraîche et vous la répartissez bien aussi sur les bords. Donc vous allez avoir une couche de beurre, une couche de crème fraîche et puis le reste de la crème fraîche qui coule au fond. Vous cassez un œuf, hein, par-dessus sur le ramequin. Si vous avez envie de le faire gratiner un petit peu, de le rendre un peu plus gourmand, vous pouvez mettre un peu du fromage. Alors vous pouvez mettre un morceau de raclette, vous pouvez mettre du roquefort, vous pouvez mettre ou du comté ou un fromage plus classique. Hein, et vous les mettez au micro-ondes. Alors c'est important. Hein, si vous avez un micro-ondes qui est entre 750 et 900 watts, vous mettez 5 minutes. Si votre micro-ondes fait 1000 watts, vous mettez 4 minutes. Et là, vous les sortez, vous avez des œufs cocottes qui sont parfaits. Le blanc qui a cuit mais qui reste un peu crémeux et qui s'est mélangé avec la crème. Le jaune bien coulant, là c'est inratable. 5 minutes au micro-ondes.
Vous, vous les cuisez comment, chef Julien?
Les œufs cocottes?
Ouais. Bah, au bain-marie, chef.
Au bain-marie. Je maîtrise un peu plus le bain-marie par rapport à la cuisson. Après... le micro-ondes et les œufs, j'ai des mauvais souvenirs avec ma fille qui peut m'en témoigner. Papa, je vais faire chauffer mon œuf dur. Je dis, je vais pas tilter sur le coup. Elle a mis ça au micro-ondes, l'œuf dur, il a explosé dans mon four. C'est une catastrophe.
C'est bien ce que je disais.
Une catastrophe. C'était un de ses premiers ratés.
Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu sais. Peut-être que tu aurais peut-être pu inventer une recette, hein, qui aurait été un classique.
Bon, chef Safia, elle a pas bien parlé dans le micro, donc on n'a pas entendu ce qu'elle disait.
Je dis qu'après il a nettoyé, c'est pas moi.
Ah bah voilà.
Quand c'est pas moi qui nettoie, ça me va.
L'œuf dur au micro-ondes, t'y as dit, à pas faire. Ne faites pas.
Grand classique également, la salade de chèvre. Alors là aussi, ça a l'air simple finalement, et c'est bon ça, la salade de chèvre, c'est merveilleux.
Alors c'est très bon, mais ce que je regrette, c'est que même dans les restaurants, souvent, on vous sert la salade aux chèvres. Vous savez, avec l'espèce de bûche de chèvre bas de gamme. La salade aux chèvres, ça se fait avec du chèvre frais, ou alors pour ceux qui aiment. Du semi-frais, hein, ou du demi-sec, hein.
C'est encore ce qu'on parle, là.
Ah oui, non, mais attendez, chez nous, le fromage de chèvre et le fromage de brebis, c'est une religion presque, hein. Donc, ça se fait avec des petits crottins, hein.
Pas les bûches.
Ouais. Vous pouvez acheter, même en supermarché, hein, vous trouvez des petits chavignols ou des petits crottins de Sancerre, vous les trouvez par petites, c'est des espèces de petites réglettes, vous en avez entre 3 et 5. Avec un chèvre, vous faites deux toasts, hein, vous le coupez en deux dans l'épaisseur. Et puis après, bon, pour le secret de la cuisson, on va se tourner vers chef Julien. Mais là aussi, on peut utiliser des restes de pain, hein, un petit pain de campagne qui est un petit peu séché, etc. Julien, pour la salade au chef, c'est nickel.
Bon, vous allez me taper sur les doigts, mais nous, on utilise un peu de chèvre en bûche, malheureusement.
Oh là là, chef Julien.
Mais de temps en temps, quand on peut, ouais, c'est sûr qu'il faut essayer de privilégier ces grands produits et en manger moins, mais mieux. Alors après, le chèvre, il faut le mettre sur un four assez fort, donc 200 degrés, je pense, avec le grill, vous savez. C'est juste pour flasher, comme on dit dans le métier et dans le jargon, avec un filet de miel par-dessus, un peu de thym légèrement émietté comme ça sur le dessus de votre pain. Ça fait le tour est joué, quoi.
Ouais. Ou à la place du thym, on peut mettre un peu d'origan, l'origan et le chèvre.
Est très bon.
C'est délicieux.
Cerneau de noix qu'on a concassé au préalable par-dessus. Enfin, libre à vous après d'imaginer ce que vous avez envie, mais chèvre, miel, chèvre, noix, chèvre... Ça fonctionne.
Voilà, le chèvre ayant un goût un peu fort, il ne faut pas que vous hésitiez à assaisonner beaucoup votre salade. Hein. Vous faites une vinaigrette bien relevée, bien assaisonnée, et comme ça, ça va contrebalancer avec le goût du chèvre.
Alors, il y a vraiment un plat qui est de toujours, c'est la blanquette de veau, et aujourd'hui, elle a de plus en plus la cote, cette blanquette de veau.
Ah oui, ça fait partie des plats préférés des Français, que ce soit sur les recherches Google pour trouver des recettes de cuisine, ou bien sur les plats qui sont le plus commandés au restaurant. Et la blanquette, alors il y a 10 millions de recettes, alors que la blanquette de veau, il y a une recette emblématique, Julien, c'est celle qu'on apprend à l'école hôtelière. Alors, les grands principes de base de la recette.
Sans crème, hein. La liaison se fera sans crème.
Eh oui.
Et c'est surtout une blanquette que j'appellerais la blanquette du lendemain, en fait, parce qu'elle n'en sera que meilleure.
C'est-à-dire qu'on la mange pas le jour même, c'est ça que ça veut dire?
Normalement, on la mange le lendemain, comme le sauté de veau maringot, comme le bœuf bourguignon. Elle s'imprègne de cette sauce et elle en est que meilleure le lendemain, puisque cette chair de viande s'attendrit, en fait, et prend vraiment le goût du bouillon. Alors après, moi, je la fais rapide pour la maison et pour simplifier le tout. On prend des morceaux un peu gras dans le veau.
À la poitrine, moi, voilà. La blanquette.
Alors, il y a pas mieux.
Souvent, les gens n'aiment pas parce qu'il y a un peu de gras, mais le gras, vous n'êtes pas obligé de le manger.
Leur boucher,
mais
de
ça va être moelleux.
C'est ce gras qui vous donne un goût au bouillon, en fait. Et tout part du bouillon. Donc, cette viande est mise dans un filet d'eau qu'on appelle à limoner. Donc, on fait couler de l'eau sur la viande pour épurger, pour l'enlever de son sang pendant au moins quelques heures. Donc, on laisse cette eau dans une bassine avec cette viande qui va se dégorger de son eau. Et ensuite, on la met à blanchir. Mais quand je dis blanchir, c'est vraiment à petit feu pour qu'elle s'enlève de toutes ses impuretés. Et cette première couche d'impureté, on est censé l'enlever. Parce que sinon, vous allez troubler votre eau de cuisson.
Voilà, on appelle ça écumer. Donc, on enlève cette mousse avec un écumoir.
De faire. C'est dans toute sauce, dans tout fond, on écume toujours pour enlever ce nuage mousseux qu'on a par le dessus qui donne ce côté ambré, en fait, à cette sauce. Une fois que vous avez plus ou moins blanchi cette viande, donc sur l'induction numéro 6 pendant une demi-heure.
Je vous coupe juste une seconde, j'insiste, ouais. Parce que vous utilisez un terme de cuisine, vous parlez de blanchir. Je rebondis sur ce que dit Julien, parce que beaucoup de gens, pour faire la blanquette de veau, la font rissoler. Non, la blanquette de veau, c'est
parafroid.
C'est blanchi, c'est-à-dire on démarre la viande à froid directement dans l'eau. Hein. On fait bouillir la viande, pour parler avec des mots simples.
C'est ça, une fois qu'elle a blanchi, qu'on a enlevé cette impureté-là, après une demi-heure, avec un petite ébullition, on y ajoute nos carottes, nos oignons, nos blancs de poireaux, nos oignons piqués d'un clou de girofle pour que ces légumes-là prennent le goût de la viande. Grosso modo, il faut compter une heure et demie, c'est ça Manu, à peu près?
Oui, on l'a fait. Alors ça dépend aussi du morceau qu'on utilise. Moi, ce que j'aime bien aussi avec la poitrine de veau, c'est que ça cuit un petit peu plus vite que la noix de veau. Souvent le boucher, vous dites pour une blanquette, il va vous donner de la noix ou de l'épaule. Demandez de la poitrine de veau, vous la coupez en gros cubes. Et là, ça cuit un petit peu plus vite, effectivement. Et en plus, l'avantage, c'est que comme il y a un peu de gras, le gras va partir dans le bouillon. Et quand vous allez écumer, vous allez enlever le gras avec, parce que le gras va être capturé dans l'écume. Et donc, vous n'aurez plus de gras. Hein. N'ayez pas peur du gras de la poitrine de veau. C'est du gras. Et puis, il y a le.
Après, donc, c'était 1h30 de cuisson.
Pardon.
Pour finir assez rapidement, on décante. Ça veut dire qu'on sépare la viande du liquide et on récupère uniquement le liquide. Et les légumes et la viande sont dans un plat à part et vous avez juste votre marmite avec votre bouillon que vous portez à ébullition, par contre, là, pour refaire un peu réduire, pour recorser un peu les sucres, pour recorser le goût. Une fois que vous avez porté ce jus à réduction voulue, donc pas de moitié, mais au moins un bon quart en moins pour corser donc ce jus, vous faites au préalable à côté un roux.
Un roux blanc.
Tout le monde le connaît, c'est tant pour tant de beurre et de farine, un roux blanc. Donc si on met 50 grammes de farine, on dit dans la restauration qu'on met pour un litre de volume de liquide 60 grammes, pour vraiment avoir quelque chose de consistant. C'est un litre pour 60. Donc je mettrai 60 de beurre à fondre. Une fois que mon beurre est mousseux fondu, j'ajoute mes 60 grammes de farine et je mélange à feu réduit. Et ça fait cette pâte un peu, et ce qu'on appelle, nous, le roux blanc.
Voilà, on ne laisse pas colorer. Parce qu'après, il y a les roux blonds.
Pour un litre de volume d'eau, donc dans votre marmite, vous allez sûrement avoir 3 litres de bouillon de veau. Vous mettez donc 6 fois 3, 18. 180 grammes de beurre, 180 grammes de farine. Okay, quand vous avez ces deux choses-là, vous avez fait fondre votre beurre, vous avez additionné de farine, vous mélangez bien, ça fait cette espèce de pâte. Nous, on s'arrête à la cuisson blanc parce qu'il y a roux brun et roux. Il y a roux blond roux et roux brun. C'est une autre cuisson encore plus poussée. Mm-hmm. Nous, c'est blanc.
Pour la blanquette,
c'est blanc.
Voilà, c'est blanc.
C'est ça. Et après, vous additionnez cette pâte dans votre bouillon et vous mélangez au fouet. Et ça va faire une liaison naturelle.
D'accord. Et d'où cette idée qu'il y a de la crème dans la blanquette vient-elle alors?
Pour moi, à mon sens, dans la restauration, ça maintient mieux au bain-marie, en fait.
Ah, c'est pour ça. C'est juste parce que c'est plus pratique.
C'est la même chose que pour un beurre blanc. Il y a deux parties, deux écoles. Il y en a qui en mettent de la crème, il y en a qui montent le beurre nantais sans crème.
Le vrai beurre blanc se fait minute, normalement.
Voilà.
Toutes les sauces montées au beurre, donc au beurre clarifié même, sont des sauces qui tiennent difficilement.
Au bain-marie à 60 degrés, votre sauce, elle vire au bout de 10 minutes. Et quand on est en plein service et que vous avez une sauce à remonter dans le froche, dans le jus, c'est injouable. Donc on pense, pour moi, je pensais que, en mettant de la crème, ça stabilise et ça la maintient pendant la durée du service au bain-marie.
Mais dans la vraie blanquette, dans la vraie recette, il n'y a pas de crème.
Et pour les puristes, ils cassent des jaunes d'œufs dedans.
Ah oui, absolument. Ouais. D'ailleurs, les
c'est ce qui va donner la liaison. Le jaune d'œuf, il va lier cette sauce et va la rendre sirupeuse et va la rendre glaçante, en fait. Une fois que vous avez cette sauce nappante, vous la versez sur votre marmite avec votre viande et vos légumes.
Allez, on va continuer à voir vos recettes préférées du restaurant à faire à la maison. Je rappelle que c'est peut-être vous, dans un instant, qui irez dîner au restaurant, Manu. Un très beau cadeau.
Oui, il vous reste plus très longtemps pour jouer. Hein, sur mon Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L, pour gagner un dîner pour deux personnes au Braise-en-Ville, le restaurant de Philippe Baranès, notre invité de la semaine dernière. Un restaurant dans lequel tout est cuit à la braise, de l'entrée au dessert, Philippe. Miam.
Miam.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et notre invité aujourd'hui, Manu, c'est le chef Julien Durand.
Eh oui, Julien Durand, le roi du foie gras halal, hein, qui est avec nous pour parler des, pour cuisiner les plats de restaurant, mais à la maison, hein, tout simplement, sans se prendre la tête.
Voilà, on s'est quitté sur la blanquette de veau, les légumes avec la blanquette, chef Julien, donc c'est...
un bon riz pilaf.
C'est riz.
Un bon riz, je pense.
Hein. Ouais, en accompagnement à un bon riz pilaf. Alors vous avez des légumes de la garniture, Julien, quand même, qui sont dans la sauce, hein.
Qui sont à récupérer dans la sauce. Et j'aime bien y ajouter, ouais, comme dit ma fille, des petits copeaux de champignons de Paris au dernier moment, vous savez, coupés assez finement, qui vont se lier dans le riz, dans cette sauce bien grasse, bien chaude. C'est un merveille.
Ah oui, ça, c'est le riz avec la petite sauce de blanquette par-dessus, là, qu'on remue avant de le manger, c'est délicieux. Moi, j'adore ça.
Alors, le plat qui réconcilie tout le monde, Manu, c'est le...
Le hachiche parmentier.
Le hachiche parmentier, c'est Maître Boily qui nous l'a soufflé dans le casque. Merci Maître Boily de participer d'ailleurs, hein, avec toutes ces bonnes choses.
Oui, alors le hachiche parmentier, bah, qu'on peut faire avec des restes de viande, hein, si on a un reste de blanquette ou de bœuf bourguignon, mais qu'on peut aussi acheter sa viande exprès pour le hachiche parmentier. Alors quel est le secret d'un bon hachiche parmentier? Parce que souvent quand on le fait à la maison, Julien, c'est un peu sec parfois.
C'est séquette, ouais. Parce que il faut garder un peu de sauce là-dedans et il faut aussi penser à l'agrémenter d'oignons, de carottes, de le retravailler, cette viande qui est cuite, faut la retravailler, faut la remouiller, faut la lui redonner une seconde vie en fait. Et vous pouvez aussi faire un hachis avec votre reste de blanquette, un hachis de veau façon parmentier.
Pour récupérer les légumes, les champignons, la viande qu'on
a jonglé. La cuisine simple et bonne, c'est une cuisine de malin. Il faut essayer de récupérer ce qui est récupérable. Et c'est vrai que cette viande s'apprête très bien à un parmentier, le veau.
Ouais, on peut. Alors d'ailleurs, on peut faire ça aussi avec des restes de poisson, des restes de légumes. On peut faire un parmentier de légumes avec une volaille, un parmentier de canard, par exemple, c'est très bon.
Si c'est ça que votre viande de bœuf, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de sauce tomate, quoi. Donc il faut prendre une bonne sauce tomate, il faut les prendre de saison ou même des bonnes conserves parce qu'elles ont été récoltées à temps et en période estivale. Mais il faut que ça mijote, il faut que ça compote, il faut que ça vive, quoi. Il faut que ça sur le coin du piano pendant deux bonnes heures, cette marinade de bœuf à la tomate, à l'oignon, à la carotte, avec un peu d'ail, et voilà, faut que ça prenne goût, quoi.
Alors la recette du parmentier, Julien.
Bah, il faut saisir sa viande principalement. Il faut bien saisir sa viande de bœuf. Si on fait sur du parmentier de bœuf avec de l'oignon, une garniture aromatique, il faut mettre de la carotte, il faut mettre un peu de thym, il faut mettre un peu d'épices si l'on veut mettre une touche un peu orientale en mettant du cumin, pourquoi pas. C'est très bon aussi le parmentier au cumin. Et puis, il faut le faire revenir tout doucement sur le coin du feu une fois que ça a été saisi pour saisir donc les sucs. Ce qui est important dans une viande de bœuf, c'est saisir les sucs. Donc c'est
mais il ne faut pas que ça reste liquide avant qu'on le mette dans le plat à gratin.
Là, à défaut de la blanquette, c'est des paras chauds, donc poêle chaude. On met sa viande, on la saisit. Et une fois qu'elle est saisie, on pourra baisser la température pour la cuire à cœur. Et on y incorporera nos garnitures aromatiques, nos oignons, nos carottes, nos thym, nos lauriers, notre queue de persil, notre sauce tomate qu'on a achetée... chez notre commerçant, pardon, et il faut que ça mijote pendant deux bonnes heures, quoi.
Ouais, pour bien confire le tout.
Pour bien confire le tout, et en additionnant deux verres d'eau au fur et à mesure, pour qu'il y ait cette espèce de sauce un peu nappante, façon un peu spaghetti bolo, quoi.
C'est une purée normale qu'on fait ensuite?
Un écrasé de pommes de terre.
Ouais, c'est marrant parce que, en fait, on fait toujours ça avec de la purée. Moi, je suis comme Julien. Je fais un écrasé de pommes de terre. Ça se tient mieux et ça évite que la purée se mélange avec la viande.
Sur les carpaccios, sur toutes ces choses-là, il faut de la mâche, il faut du morceau. Donc, écraser juste votre pomme de terre au fouet. Donc, soit on la cuit robe des champs au four sur un lit de gros sel, mais c'est un peu plus long. Soit on la cuit à l'eau avec la peau. Parce que la peau va protéger un peu et votre pomme de terre aura moins de flotte dedans. Ou soit on fait un peu comme tout le monde à la va-vite, on les épluche, on les cuit comme ça directement dans l'eau. Vous les laissez bien s'égoutter, mais vraiment bien s'égoutter une fois qu'elles sont cuites. Faut pas avoir peur de laisser une bonne demi-heure et que l'eau, elle s'en aille dans la passoire. Et puis après, à chaud, vous l'écrasez avec votre fouet. Additionnez de beurre de sel si vous aimez le sel un peu plus. D'huile d'olive si vous êtes fanat d'huile d'olive. Et voilà, mais garder cette idée d'avoir quelques morceaux de mâche et tout qui vont bien s'associer avec d'autres.
Ouais. Et bien sûr, pas de crème fraîche dans le hachis parmentier, comme j'ai souvent vu dans des recettes sur Internet. Attention, ne vous fiez pas. Il y a des sites, on prend ce qu'ils disent pour un argent comptant, mais souvent c'est un blogueur ou un internaute qui n'est pas forcément cuisinier qui vous donne la recette. Et on trouve de la crème fraîche dans le hachis parmentier. Non, il n'y a pas de crème fraîche dans le hachis parmentier.
Pour la gourmandise, donc on fait nos montages un peu façon tiramisu. Donc une couche de pommes de terre écrasées, une couche de bœuf avec cette sauce tomatée, carottée, oignontée. Ça se dit pas, mais je le dis.
Non, c'est bien. Déposé, copyright.
On remet par-dessus notre écrasé de pommes de terre. Si on a vraiment un plat assez haut, on remet une couche de viande. Et là, vous terminez par un filet de pommes de terre et vous additionnez d'une chapelure de pain, quelques morceaux de comté.
Un peu de fromage, oui, pour faire plaisir à Safia. Parce qu'il n'y a pas de fromage, Safia mange pas.
Et vous laissez
pas
à gratiner le tout au four, sur un grill assez fort, de 100 degrés, pendant 5-10 minutes. Pour avoir cette couche.
Pourquoi dans la recette originale, il n'y a pas de fromage, Manu?
Non, normalement, c'est de la chapelure. Hein. On le fait gratiner à la chapelure, mais bon, c'est vrai qu'à la maison, on le fait avec du fromage parce que c'est
la plus
gourmand.
Version savoyarde.
Les enfants aiment ça, Safia confirme. Voilà.
Bien, vous avez joué. Eh bien, maintenant, c'est peut-être vous qui allez dîner chez le chef Philippe Baranès. Maître Voilier, est-ce que vous êtes prêt?
Alors, le gagnant, c'est une gagnante, c'est OCA SBR, hein, c'est son compte Instagram.
Alors, OCA SBR.
Je sais pas. Alors, blogueuse et infirmière. Voilà. Blogueuse et infirmière, 23 ans, tout est croque la vie à pleines dents. Voilà, je lis son profil Instagram. Et donc, son prénom, a priori, c'est OCA. Hein, il y a un prénom.
Océane.
Océa. Peut-être non. Océane, oui, peut-être Océane. Hein, c'est ouais. Peut-être un surnom, Océa. Donc, si vous nous écoutez, Océa ou Océane, c'est vous qui avez gagné ce dîner pour deux au Brézanville, donc la table du chef Philippe Baranès, où tout est cuit à la braise de l'entrée au dessert.
Voilà, vous avez beaucoup de chance. Si vous jouez après l'émission, vous repartirez avec un cadeau,
absolument,
Manu, pour la semaine prochaine.
Absolument. Vous pouvez jouer à partir de 13h30 hein, sur mon Instagram mariani.manuel, mariani.manuel. Vous gagnerez un livre qui s'appelle Au Pays d'Alice. Alors, c'est pas Alice au Pays des Merveilles. Hein. Le Pays d'Alice, c'est la cuisine. Hein. C'est le livre d'Alice Moirot, hein, qui est influenceuse.
Safia, montre-le à la caméra.
Voilà, Safia va pouvoir le montrer à la caméra. Donc, ce livre d'Alice Moirot, Au Pays d'Alice, avec d'ailleurs dedans des recettes dont on vous a parlé pendant ce. Et on pourra même faire un numéro 2 parce qu'on vous avait pas parlé du sucré. Et puis, on a encore plein de plats.
Est-ce qu'on a le temps de parler des tomates farcies? J'aimerais juste qu'on termine sur les tomates farcies. Est-ce qu'elles sont farcies au riz, les tomates farcies?
J'ai connu cette recette-là.
J'ai un souvenir d'enfance avec du riz à l'intérieur.
Souvenir d'enfance qui fait la liaison, en effet. Ou même.
Un peu de chapelure, ouais,
un peu de chapelure. Un peu de pain dans le lait. La mie de pain dans le lait qui fait cette farce, en fait. La vraie, vraie, vraie farce de tomates, c'était avec de la chair à saucisse et du bœuf. On mange plus
et un peu de chapelure ou de mie de pain, c'est vrai que ça donne du moelleux, parce que le souci de la tomate farcie c'est que souvent
c'est sec aussi.
La tomate elle est un peu gorgée d'eau de liquide, mais la farce est complètement sèche, et c'est vrai que si on met comme le dit Julien, de la mie de pain infusée dans le lait ou un petit peu de chapelure, on peut mettre aussi, comme on a vidé la tomate pour mettre la farce, ce qu'on a sorti de la tomate, on enlève les pépins évidemment. Mais la chair qu'on a enlevée de la tomate, débarrassée de ses pépins, on peut la hacher et la mélanger avec la viande. Hein,
ça va additionner le tout et ça va donner cette cuisson et ce goût un peu de tomate là-dedans.
Par quoi vous remplacez avantageusement, chef Julien, la chair à saucisse?
Par quoi? Par grand-chose. Hein. Ça n'existe pas. Donc à partir de là, on fait avec cette viande, comme la viande pour le parmentier, qu'on additionne avec donc cette mie de pain qu'on a trempée dans le lait, et cette viande un peu de parmentier, cette viande un peu de bolognaise, un peu qu'on met dans nos tomates, en fait.
On parlait aussi de poitrine d'agneau pour la blanquette. Hein, si vous faites un temps pour temps de bœuf haché, hein, donc de steak haché, et de poitrine d'agneau, là par contre on n'enlève pas le gras, hein, ça va donner un certain moelleux. Un temps pour temps de poitrine de veau et de steak haché, là vous avez quelque chose de moelleux et de très gourmand.
Et donc le secret donc finalement de la cuisson de la tomate farcie pour qu'elle soit confite un peu d'une certaine façon.
Là c'est cuisson lente. Moi j'aime bien les émonder les tomates, j'aime bien leur enlever la peau. J'aime pas ce côté-là un peu cuite. Moi c'est mon goût, donc je les émonde. Donc c'est plonger vos tomates dans de l'eau bouillante où on fait au préalable une petite croix sur le cul de la tomate. On enlève cette peau qu'on refroidit derrière, et après on la creuse. Comme a dit Manu, on récupère cette chair de tomate qu'on additionne avec notre viande qu'on a mis au préalable à confire, et après on les met sur un lit d'oignon ou sur un lit de ce que l'on veut, pommes de terre finement coupées au four pour pas que ça accroche, mais il faut que ça confie, il faut que ça cuise assez lentement.
Safia est scandalisée parce que vous avez parlé du cul de la tomate, hein, ouais. Julien, je vous le dis.
Il n'y a pas un autre nom.
Mais tu sais qu'en cuisine, c'est pas un gros mot.
C'est pas un gros mot.
Non, oui. Non, non.
Il y a les culs d'artichaut, par exemple.
Ouais, et puis de casserole aussi.
Cul de casserole.
Par exemple, tout ça. Bon, voilà. Bon, écoute, Safia, on coupera au montage, comme on dit. Merci, chef Julien. Merci, on redonne infiniment les coordonnées, Manu, des réseaux de chef Julien Durand.
Absolument. @DurandJulien94, Durand avec un D.
Ouais.
Et comme ça, vous pouvez voir tout l'univers du chef Julien Durand, ses plats, emportés, plats à domicile, son foie gras. Bientôt livrable dans toute la France.
Voilà, vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez un très très bon week-end.
À la semaine prochaine.
À tous.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net.